La biodiversité, c'est un terme assez récent qui date des années 80. Et auparavant, en fait, il faut bien dire que si le terme n'avait pas d'usage, il n'était pas, n'existait pas, c'est que les scientifiques ou, je dirais, l'humanité ne considéraient pas ça comme quelque chose d'important. À partir des années 80, on a commencé à réaliser qu'il y avait un problème d'extinction de certaines espèces actuelles. Alors, ça m'arrive dans les amphithéâtres que de devoir parler sans micro, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, surtout que bon, la salle est en longueur. Donc, je vais essayer de parler assez fort. J'espère que vous m'entendrez. Alors, le terme de biodiversité, c'est un terme qui a été créé en 1986 afin de répondre à une inquiétude de certains scientifiques sur le sujet qu'on va envisager ensemble maintenant. Alors, le terme biodiversité, c'est un mot qui regroupe deux unités, le terme bio et le terme diversité. Ça veut dire en fait que ce terme regroupe un grand nombre de notions et de concepts différents. Et ça, c'est pas forcément évident. Et donc, une des premières choses que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est tout ce qu'on peut mettre dans la biodiversité. Donc, le terme biodiversité a littéralement explosé en 92 après la conférence de Rio de Janeiro où on a commencé à mettre une priorité à la conservation de la biodiversité. Alors, la biodiversité, j'ai choisi quelques diapositives pour illustrer simplement ce qu'on peut imaginer en premier, puis je détaillerai. Vous avez la diversité des populations humaines. Vous avez la diversité des organismes cultivés dont on se nourrit ou dont on nourrit les organismes qui nous servent de nourriture. Vous avez toute une série d'organismes. Par exemple, ici vous avez des truffes. Vous avez ici toute une série d'algues qu'on appelle des diatomées. Vous voyez à la fois la diversité des formes, la diversité de tout ce qui est vivant va être intégrée dans la biodiversité. Ici, vous avez quelques bactéries qui sont dans votre tube digestif et qui sont fondamentales d'ailleurs au fonctionnement de votre tube digestif. Ça veut dire que vous abritez... Non, ça va aller. Non, ça marche pas. Ça marche de temps en temps. Vous avez ici... Une éponge qui est l'organisme, ça marche pas du tout en fait. Voilà, je suis désolé. Vous pouvez passer à la diapositive. Oui, je sais, mais ça dure pas longtemps. Voilà, ici une éponge. Est-ce que vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Alors, classiquement, il faut rentrer un peu dans le vif du sujet pour que vous compreniez bien ce qu'est la biodiversité. C'est la diversité des gènes et des gènes allèles. Donc ça, je pense que vous ne l'avez pas vraiment fait en cours, donc je vais vous expliquer. En fait, une façon de voir la biodiversité, c'est lorsqu'on s'intéresse, par exemple, à différentes espèces, c'est la partie du haut, hein, à différentes espèces, vous voyez qu'il y a des protéines qui sont très similaires d'un organisme à un autre. Ces diversités de protéines, ça fait partie de la biodiversité. C'est quelque chose d'important qui est un élément important. En bas, il s'agit d'un alignement de séquences d'allèles qui sont présents dans les populations humaines. Un allèle, c'est simplement l'idée qu'un gène peut avoir plusieurs copies et que dans la population humaine, puisque c'est l'exemple que j'ai pris ici, il y avait une diversité au niveau de la séquence et cette diversité est importante puisqu'ici, en fait, tout ce qui est codé TA, sont des hémoglobines qui vont entraîner une maladie qu'on appelle les thalassémies. Et dans les populations humaines, parmi vous, il y a une variation de ces séquences. Parfois, vous allez avoir des maladies, parfois pas. Et cette variabilité, c'est aussi quelque chose de la biodiversité. Alors, dans la diapositive suivante, vous allez voir un autre exemple. Ça peut être la diversité des physiologies, des comportements. Par exemple, vous avez sans doute déjà vu que certains oiseaux étaient susceptibles d'aller voler votre nourriture dès que vous aviez le dos tourné. Cette diversité des comportements, c'est aussi du monde vivant, c'est aussi de la biodiversité. La diapositive suivante, donc là je vous explique ce que c'est. C'est aussi les interactions qui existent entre les organismes. J'ai choisi quelques exemples. En haut à gauche, vous avez du corail, un corail très particulier qu'on appelle le cerveau de Neptune. Et pourquoi je vous ai montré cet exemple-là? C'est parce que le corail est un organisme qui vit avec une algue dans ses tissus. Eh bien, ces interactions qui existent entre le cnidaire, l'organisme animal, et l'algue qui vit dans ses cellules, ça fait partie des diversités qu'on rencontre dans le monde vivant, ça fait partie de ce qu'on appelle la biodiversité. En bas, l'organisme jaune, là, avec des petites croûtes, c'est un lichen. Le lichen, c'est aussi une association qu'on appelle symbiotique. Il y a un champignon et il y a une algue. Ces diverses interactions sont aussi importantes dans le cadre de la biodiversité. Le requin, vous le voyez accompagné d'un poisson pilote, un rémora, c'est une forme d'association dans la vie et c'est aussi quelque chose d'important. Vous avez bien sûr pensé, j'imagine, à la relation de prédation. La relation de prédation, avec l'exemple du lion, ça fait partie de la biodiversité. Et l'exemple dernier que j'ai montré, c'est un crabe qui présente une masse jaune un peu curieuse, un peu mis en relief là dans la photographie. Il s'agit de la partie externe d'un parasite qui ronge l'intérieur du crabe. Le parasitisme, ça fait partie de la biodiversité dans sa définition la plus large. La prochaine diapositive vous montre aussi que dans le concept de biodiversité, et ça a été très bien dit à la conférence de Rio, il faut tenir compte de la diversité des écosystèmes. J'ai choisi quelques exemples d'écosystèmes. Vous avez une mare de chez nous, hein, avec tous les organismes qui vivent à l'intérieur, qui interagissent avec les modalités qu'on vient d'évoquer, ça peut être parasitisme, prédation, ça c'est de la biodiversité. Vous avez une savane africaine que vous reconnaissez certainement parce que souvent filmée, où il y a souvent des reportages à la télévision, vous avez toute une série d'interactions entre les organismes. Vous avez un littoral qui pourrait être le littoral du Nord-Pas-de-Calais, où vous avez une diversité d'organismes qui interagissent entre eux. Le Sahara, avec ses interactions particulières, les récifs de corail, une forêt tropicale, ce sont des écosystèmes, et ça aussi, cette variété d'écosystèmes, ça fait partie de la biodiversité. Dans la diapositive suivante, la question qu'on va se poser, c'est, cette diversité, finalement, cette biodiversité, cette diversité du vivant, elle est variable, et comment on peut la mesurer? Autrement dit, la question, c'est, puisqu'on sait qu'il y a un problème de biodiversité, qu'on est des scientifiques, c'est comment on va pouvoir mesurer cette biodiversité pour protéger la biodiversité. Alors, la question que je pourrais vous poser, c'est, et je la poserai à ceux qui sont devant, parce qu'ils ne sont pas loin, d'après vous, quel est l'écosystème qui est le plus riche, le plus divers? Est-ce que quelqu'un a une idée? Celui de droite ou celui de gauche? Levez la main ceux qui pensent que c'est celui de gauche. Et levez la main ceux qui pensent que c'est celui de droite. Alors vous allez me dire, mais eh bien en fait, ça va dépendre de la façon dont on évalue la biodiversité. Et ça, c'est le problème principal, un problème qui est, je dirais, un problème de fond, qui pour les scientifiques et pour les politiques va être un problème de gestion et qui n'est pas résolu. Dans l'écosystème de gauche, vous avez trois espèces. Donc si vous comptez le nombre total d'espèces, vous avez effectivement trois espèces d'un côté et deux de l'autre. Mais si vous prenez au hasard des organismes, vous avez plus de chances d'avoir deux organismes dans celui de droite. Et en fonction de la façon dont vous allez évaluer la biodiversité, vous aurez donc des résultats différents. Ici, c'est un type de biodiversité particulière, c'est la biodiversité spécifique qui est le plus souvent celle qui est évaluée par les scientifiques, car la diversité génétique est extrêmement difficile à évaluer et la diversité des écosystèmes, notamment en milieu marin, est très difficile. Alors, la question qu'il faut se poser, puisque c'est un peu l'idée de l'UTLS, c'est de faire en fait, puisque là on est quand même dans un concept scientifique, le concept de biodiversité, quelque chose de récent, c'est de faire le rapport avec l'humanité, avec l'homme, à différents niveaux. Et le premier niveau que je veux discuter avec vous, c'est l'importance de la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est une source de biens. c'est certainement la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la biodiversité. J'ai pris quelques exemples. Vous avez en haut à gauche une série de fromages. On est le pays du fromage, donc on a une diversité de fromages. Une diversité de fromages, c'est une diversité de lait, d'accord ? C'est une diversité de races de vaches, de pâturages, mais c'est aussi une diversité de micro-organismes, de bactéries et de champignons qui vont générer le fromage tel que vous le connaissez. C'est typiquement de la biodiversité aussi, c'est de la biodiversité générée par l'homme, mais elle en fait partie. C'est une source de bien pour nous puisque nous nourrissons de cette diversité. Et vous savez très bien que si vous nourrissez de la même chose, vous allez pâlir et rapidement avoir des problèmes de santé, que la diversité dans votre alimentation, c'est quelque chose d'essentiel. Vous avez ici une illustration d'un marché. Alors je pense que ce genre de marché, c'est quand même pas très courant. Et ça vous montre à quel point la diversité des fruits, puisque là il ne s'agit que de fruits, est très grande et très importante dans l'alimentation humaine en général. Vous pouvez voir aussi le bois produit par les arbres comme étant une source de biens permettant de construire des maisons. Vous pouvez voir le verre à soie qui va vous permettre de fabriquer des vêtements comme de la soie, ou j'aurais pu prendre l'exemple du coton. Et vous avez une autre source de biens que vous oubliez parfois, c'est celle qui est dans la diversité des organismes. Il y a des molécules qui sont des molécules toxiques en général pour qui les défendent. Ces molécules, il s'avère que l'homme peut parfois en détourner la fonction et fabriquer de ces molécules des médicaments. Et j'ai pris un exemple, le lif, que vous connaissez peut-être parce que c'est un arbre que vous trouvez dans les parcs, est un arbre extrêmement toxique qui possède une molécule qu'on appelle le taxol, qui est une molécule qui modifie les divisions cellulaires. C'est évidemment, si vous mangez de lif, vous aurez des problèmes de santé qui iront à la mort, mais les scientifiques ont réussi à démontrer que l'usage de la molécule pouvait permettre d'être un très fort anticancéreux. Donc vous voyez, cette biodiversité, elle est aussi une source de médicaments et pas uniquement d'abri pour vivre ou de nourriture. Dans la diapositive suivante, on va voir d'autres exemples, peut-être qui vous paraissent moins évidents. La biodiversité, avec toutes les définitions qu'on a données, c'est aussi un héritage culturel et pour certaines cultures, une source de valeurs esthétiques et spirituelles. Et ça, quand on parle de la biodiversité et qu'on parle de l'humanité, il ne faut absolument pas l'oublier. Et j'ai pris des exemples. L'exemple en haut, c'est Ayer Rock, c'est en Australie. C'est un site touristique qui a eu beaucoup de problèmes parce que les aborigènes le considèrent comme étant un site extrêmement important pour leur culture. C'est un fondement de leur culture. Si jamais vous construisiez des maisons dessus, c'est comme si vous leur arrachiez une partie de ce qu'ils sont. Eh bien, la biodiversité, c'est aussi ça. Et il faut le voir comme ça. Mais ça peut être aussi une source de bien esthétique. Je vous ai mis une plage tropicale. Vous savez, plaisir à vouloir aller sur un type d'écosystème comme ça. Eh bien, ça fait partie de l'intérêt d'avoir conservé de la biodiversité. Dans la diapositive suivante, les loisirs. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les loisirs ? Ben, c'est actuellement cette mode qui date depuis quelques années à développer l'écotourisme, c'est-à-dire un tourisme qui serait dans le développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable ? Ça me permet de vous en parler là. C'est maintenir la biodiversité, c'est-à-dire continuer à se développer tout en maintenant la biodiversité. Et ça, clairement, c'est l'enjeu du futur. C'est votre enjeu à vous et c'est l'enjeu de vos enfants. Est-ce que, oui ou non, ils géreront cette biodiversité dans l'avenir ? C'est une question qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Donc maintenant, on développe du tourisme, écotourisme. Et puis, certainement, la chose la plus importante, sur la diapositive suivante, c'est que la biodiversité, pour un scientifique, même un scientifique qui fait de l'évolution comme moi, c'est avant tout une source de services écologiques. Et ça, c'est une notion récente que les Américains commencent à travailler un peu. Et il faut bien comprendre que ça, c'est le point fondamental. Qu'est-ce que c'est une rivière ? Eh bien, dans cette rivière, il y a toute une série d'organismes qui vont amener à purifier l'eau. Ça peut vous paraître quelque chose d'un peu étonnant, mais si vous buvez l'eau, même si elle sort de votre robinet, c'est d'abord parce que cette eau, elle a traversé un environnement et que cet environnement a modifié les qualités de l'eau et l'a rendue plus apte à la consommation. Et ça, c'est vraiment une source de bien, parce que si on détruisait ces rivières, on devrait rajouter des usines pour rendre l'eau plus potable encore. Vous me direz, il y en existe. Bien, imaginez que le coût serait bien plus grand, parce qu'il faudrait les multiplier par 10 ou 100. Le sol, recycle la matière. C'est bien par le sol que vous cultivez les plantes et que vous pouvez manger. C'est aussi une source de bien essentiel que tous ces organismes qui recyclent alors que vous n'en avez même pas conscience, c'est important. Les abeilles pollinisent toutes vos plantes. On supprime les abeilles, on ne pollinise plus. On pourra en parler tout à l'heure, vous savez qu'il y a un problème sur les abeilles, c'est pas anodin du tout. Ça peut avoir des conséquences beaucoup plus grandes qu'on ne pense. On peut aussi penser au problème de désertification, au problème d'inondation, qui sont liés parfois à des problèmes de gestion de la biodiversité qui ne sont pas réalisés dans de bonnes conditions. Alors, la biodiversité, on peut la voir de façon très très concrète. Un exemple que je vais évoquer très rapidement. Dès Darwin, on savait que associer des plantes entre elles améliorait la bioproductivité. C'est-à-dire que si on mélange 2-3 espèces de plantes qui sont compatibles, eh bien, on a une plus forte bioproductivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est utile pour l'homme que de penser que associer des espèces, c'est-à-dire générer une biodiversité, même en culture, ça va augmenter le rendement. Et ça, ça a été fait, c'est connu depuis même déjà avant, nos ancêtres savaient qu'il fallait associer telle espèce avec telle autre espèce et que ça augmenterait les risques, ça limiterait les risques de maladies et ça augmenterait éventuellement la production des fruits. C'est quelque chose de nouveau, mais finalement qu'on a complètement oublié parce qu'on fait des monocultures. Pourquoi on fait des monocultures? Parce que c'est plus facile de moissonner une espèce de blé qui va donner à une date donnée facilement. Mais en fait, on aurait un meilleur rendement et on saturerait moins les terres si on cultivait plusieurs espèces en même temps. Alors, ce genre de protocole a été testé à très large échelle, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, pour vérifier quels étaient les paramètres qui en fait étaient à l'origine de cette augmentation de la bioproductivité. On pourra en parler tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez aussi maintenant, parce qu'après on va parler un petit peu d'autre chose, dans notre sujet de biodiversité, d'abord c'est voir ce qu'il en est de la biodiversité si on se base à l'échelle spécifique. Vous avez ici un camembert qui présente la diversité des organismes vivants, telle qu'on la connaît. Vous voyez une énorme part du fromage qui est liée aux insectes. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'essentiel de la biodiversité spécifique, elle est chez les insectes. Et ce camembert a un autre intérêt, c'est que il montre aussi dans la partie interne ce qui est connu et ce qui est potentiel. Donc en fait, on voit que les insectes représentent une part énorme de la biodiversité, et c'est un groupe chez qui il y a certainement encore des millions d'espèces à découvrir, mais il y a des groupes qui représentent pour l'instant assez peu d'espèces, qui sont très très mal connues. Alors ça se voit parce que la partie interne du camembert est très réduite, voilà, et vous voyez ici par exemple ce groupe, c'est le groupe des bactéries. On suppose que la biodiversité des bactéries est presque totalement négligée, ça veut dire qu'il y a probablement des millions d'espèces de bactéries qu'on ne connaît pas, et là on sous-évalue très vraisemblablement la biodiversité. Au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure, de l'intérêt qu'a la biodiversité pour l'humanité, c'est important qu'on connaisse cette biodiversité. Alors, un aspect qui vous sera peut-être, pas traité, ou moins traité en cours, et donc j'avais choisi de prendre cet exemple-là, c'est les variations de la biodiversité au cours des temps géologiques. Et alors, bon, moi, je suis évolutionniste, et parfois un peu provocateur, donc j'ai pris un exemple qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, on va voir un petit peu dans les fossiles anciens ce qu'on peut dire de la biodiversité. Ce que la biodiversité, c'est un temps T, et c'est aussi la biodiversité du passé, puis la biodiversité du futur. Alors, dans la faune de Burgess, c'est une localité au Canada, donc il y a une autre localité sur l'autre diapositive, où en fait, voilà, la faune de Changjiang, en Chine. Et quelles sont les caractéristiques de ces deux sources de fossiles? Bien, ce sont les premiers fossiles animaux très abondants, et donc on peut étudier la biodiversité de l'époque du Cambrien, c'est des tout premiers moments où il y a des animaux qui ressemblent aux animaux actuels. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit, eh bien, alors j'ai pris un, alors je suis désolé, il faut bien mettre des noms. Ceci est une ascidie, ça vit dans la mer. C'est un organisme qui n'est pas très loin de nous. C'est assez apparenté aux vertébrés. Eh bien, cet organisme, il existait quasiment similaire il y a déjà 530 millions d'années. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire que la biodiversité, si on la prend à l'échelle de la diversité des formes, eh bien, il y avait déjà une certaine ressemblance et déjà une certaine biodiversité présente dès le départ des premières faunes qu'on connaît. Alors, dans la diapositive suivante, j'ai choisi un exemple beaucoup plus, un autre exemple, qui est Anomalocaris, un organisme qui vit en même temps que l'acidie qu'on a vu précédemment. C'est le plus grand prédateur de cette époque. Il fait 50 cm de long, c'est pas énorme, mais pour l'époque c'est beaucoup. Et cet animal, eh bien, il ressemble à rien de ce qu'on connaît actuellement. Sa bouche, c'est la tranche d'ananas là, à droite, et sa bouche, en fait, on l'a trouvée à part, parce qu'elle est rigide, on l'a trouvée à part et on pensait que c'était une méduse. Un jour, on a découvert qu'en fait, c'était pas une méduse, c'était sa bouche. Bon, alors une bouche comme ça dans la nature actuelle, ça n'existe pas chez un animal avec des pattes articulées. Et ces appendices frontaux qui lui servaient probablement à attraper ses proies, eh bien, il n'y en a aucun équivalent dans la nature actuelle. Dans la nature actuelle, il n'existe aucun appendice si près des yeux. Et ça, ça prouve une chose, c'est que la biodiversité du passé, quand on regarde à l'échelle des formes, eh bien, elle a pu présenter des organismes qui n'existent plus dans la nature actuelle. Alors cette notion d'extinction, c'est une notion très importante. Dans la diapositive suivante, je vous montre la faune des Diacara. Les Diacara en Australie, mais il y en a plein d'autres des faunes des Diacara, enfin des types des Diacara qu'on retrouve ailleurs, en Russie notamment. Et on va regarder les organismes qui sont présents à Diacara. Voilà, c'est juste avant, en fait, juste avant les faunes de Changyang et faunes de Burgess. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des organismes qui sont très différents de ce qu'on connaît actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diversité du monde vivant, elle a beaucoup changé dans le passé, et que ça c'est quelque chose d'intéressant. Et même dans la diapositive suivante, on voit qu'est-ce qu'on peut penser, c'est la diversité des ce qu'on appelle des embranchements, c'est-à-dire des plans d'organisation. C'est une sorte de schéma corporel. Chaque organe, par exemple, celui qui aura les antennes à un endroit, eh bien, il va avoir un plan corporel. Et cette diversité des plans d'organisation, en fait, on en discute beaucoup. Parce qu'en vent, on pensait qu'elle était presque nulle au départ et qu'elle a augmenté progressivement, comme une sorte d'idée de complexification. Et en fait, quand on regarde que certains groupes très différents ont complètement disparu, on peut penser que c'est plus compliqué, qu'au niveau des plans d'organisation, il y avait peut-être une beaucoup plus forte diversité qu'on ne pensait au tout départ, ou un peu comme les voitures. Je vais vous donner un exemple. Au départ, tout le monde faisait sa propre voiture dans son coin et il existait des dizaines et des dizaines de marques de voitures. C'était au tout début des voitures. Et rapidement, le nombre de marques de voitures s'est réduit et je dirais même que les voitures se sont un petit peu stéréotypées. Parce que maintenant, quand vous regardez les voitures, elles se ressemblent presque toutes. Eh bien, ça, c'est certainement ce qui s'est passé à l'origine de la vie animale, une très forte diversité et puis une élimination en masse qui était dès le départ. Il y a une autre façon de voir, et là je pense que vous le ferez en cours, c'est le fait qu'au cours du temps géologique, à partir de la période qu'on a évoquée, c'est-à-dire au tout début de ce graphique, vous avez une augmentation, j'allais dire, reliée à la diversité spécifique, pas des plans d'organisation ici, mais du nombre d'espèces. C'est évalué ici par nombre de genres, c'est-à-dire les genres, ça regroupe des espèces. Eh bien, on voit qu'il y a une augmentation. Vous voyez que l'augmentation, elle n'est pas totalement, elle n'est pas, c'est pas une droite. Il y a eu une phase d'augmentation, puis une phase de diminution, et on est dans une phase d'augmentation de la biodiversité au niveau générique. Mais on voit aussi qu'il y a des petites flèches jaunes et des petites flèches violettes qui montrent que la courbe rouge, c'était une moyenne un petit peu des événements. Et quand vous regardez dans le détail, c'est-à-dire vous regardez les courbes grises ou vertes, vous voyez que c'est en dents de scie et qu'il y a des phases où la biodiversité chute et réaugmente après. C'est ce qu'on appelle les extinctions de masse. Ces extinctions peuvent être considérables. Elles peuvent représenter une diversité énorme. Par exemple, à la fin du Permien, vous voyez que c'est pour ça que la courbe s'infléchit aussi fortement. C'est à cause de la fin du Permien. Vous avez un trou dans la biodiversité. Il s'est passé quelque chose qui a entraîné l'extinction de très très nombreuses espèces. Vous connaissez l'extinction des dinosaures, qui est la dernière grande extinction de masse, et on voit qu'en fait cette biodiversité au cours du temps, elle fluctue, et il y a des périodes où elle est en crise. D'accord ? Mais les périodes de crise, ça génère toujours des périodes de renouveau derrière. Ce qu'il faut que vous compreniez, ça c'est essentiel, c'est que lorsque on a la perte d'un organisme, qu'il soit représentant d'une espèce, d'une variété, d'une race, eh bien, vous perdez définitivement la diversité qu'il possède. Car l'évolution ne peut pas recréer la même chose. Elle va recréer quelque chose qui pourra occuper la même place, avoir les mêmes fonctions, mais une fois l'organisme disparu, eh bien, une fois l'interaction, puisque si on parle d'écosystème disparu, ou encore l'interaction peut la retrouver, mais en tout cas l'organisme, une fois qu'il est mort, on ne le retrouvera jamais. Ça veut dire que la diversité nouvelle qui apparaît après une crise est une nouvelle diversité qui n'est pas, qui peut être comparée, mais qui n'est pas la même que celle qui a eu lieu avant la crise. Alors pourquoi parler de crise ? Eh bien parce que si vous parlez on parle de biodiversité, c'est qu'il y a une inquiétude sur l'avenir de la biodiversité sur notre planète. Alors, quels sont les facteurs responsables de la crise de la biodiversité ? Je vais les évoquer avec vous, parce que c'est aussi quelque chose de très important. Donc sur la diapositive suivante, vous verrez un des éléments que vous connaissez de toute évidence sur l'activité humaine qui va entraîner une chute de la diversité, c'est la destruction et la fragmentation des environnements naturels. J'ai pris un exemple. À droite, c'est la déforestation dans un comté irlandais, mais on aurait pu prendre par exemple les départements de l'ouest de la France qui ont connu des déboisements absolument incroyables qui étaient bien sûr dus à la nécessité d'utiliser le bois pour la marine. Et donc, c'est pareil évidemment pour les Irlandais, et ils ont déboisé de façon absolument incroyable. Ça peut paraître, mais même en France, hein, mais il y a des endroits qui sont presque totalement déboisés, alors qu'au départ, ils étaient boisés. Hein. Et vous voyez ici sur la carte, vous voyez bien qu'il y a un émiettement des zones de forêt. Alors, quel est le problème de l'émiettement ? C'est d'abord, on peut détruire des espèces en détruisant des écosystèmes comme ça, mais aussi, on peut les détruire directement, je veux dire, en les coupant, puis c'est des arbres, par exemple, ou des plantes. Mais on peut avoir un effet juste après, c'est-à-dire qu'on peut détruire l'environnement de certaines espèces qui vont mourir après. Les grands, par exemple un cervidé, pour qu'il vive, il lui faut de la forêt. Et il ne va pas pouvoir se déplacer, enfin lui il va pouvoir se déplacer d'un bois à l'autre. Mais à un moment donné, si l'émiettement est trop grand, il ne pourra pas. Un papillon, il ne pourra pas forcément facilement parcourir de grandes distances. Et au bout d'un moment, isolé dans son petit bois, il va finir par mourir parce que la diversité génétique au sein de ces populations sera plus suffisante. Donc, l'idée, c'est que, on a compris, il faut limiter la destruction des biotopes et surtout limiter la fragmentation. Pour préserver une espèce, il va falloir lui garder un espace compatible avec sa vie, son territoire qu'il doit parcourir. Évidemment, si on l'émiette trop, il ne pourra pas retrouver ce territoire. Une autre cause importante, c'est la pollution. En haut, la Mococadis, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. En fait, un exemple de pollution très simple est marée noire. Qu'est-ce que c'est ? C'est une pollution très très visible, très très médiatique, qui tue beaucoup beaucoup d'animaux, des milliards d'animaux, mais finalement, est-ce que c'est les plus dangereuses ? J'en suis pas certain, parce que quand on a étudié la Mococadis, on s'est rendu compte que, on avait des milliards d'animaux qui mouraient, et les oiseaux payent un très très lourd tribut, et ont beaucoup de mal à s'en remettre, mais par contre la plupart des non-vertébrés recolonisent assez rapidement une fois le pétrole parti. Donc en fait, moi je pense que c'est bien de voir cet exemple de la pollution du pétrole, mais il faut penser aux pollutions récurrentes, aux pollutions de tous les jours, celles qu'on ne voit pas, celles qu'on voit, en prenant l'exemple ici des déchets qu'on trouve dans une rivière. Tous les jours il y a des déchets qui vont dans les rivières, tous les jours la rivière transporte des déchets, ça se voit moins, c'est moins médiatique, mais l'effet sur la biodiversité n'est pas moindre. On peut même avoir un effet beaucoup plus grand sur la chute, sur l'extinction d'organismes, en générant des pollutions quotidiennes. Qu'une pollution ponctuelle qui va durer 3 mois, mais à côté c'est pas trop pollué, donc ça va revenir. Par contre, quand on va polluer une rivière pendant des années, des dizaines d'années, à un moment donné, on va arriver à la limite possible et les organismes et les interactions auront disparu. Ensuite, la surexploitation. Alors, deux exemples, la pêche. La pêche, avec tous les problèmes qu'on a de surexploitation, de quotas, de non-respect des quotas. On a un politique qui doit imposer des quotas, mais qui impose des quotas qui sont parfois pas ceux que les scientifiques voudraient. Donc les pêcheurs disent que les quotas ne sont pas assez élevés, les scientifiques disent mais ils sont trop élevés pour la ressource. Donc on a des surpêches qui peuvent générer des problèmes à long terme, notamment pour certaines espèces de poissons. On voit carrément des chutes inquiétantes des populations et à ce moment-là, on peut avoir des risques de disparition de l'espèce. Il y a aussi un autre exemple, c'est celui de la pêche à l'explosif. Quand on est en milieu tropical, on a des très beaux poissons, des très beaux récifs, c'est très joli, on peut se baigner, on a des belles plages, mais il n'y a pas une forte bioproductivité par rapport à la Manche. Parce que il y a pas autant de sel, il y a du soleil, mais il n'y a pas forcément les meilleures conditions pour un développement optimal en masse. Ça veut dire que, en fait, il vaut mieux pêcher du lieu dans la Manche que d'essayer de pêcher l'équivalent dans les tropiques. Vous allez voir que les poissons, il n'y en a pas tant que ça. Et ben pour les pêcher, les gens, ils utilisent des méthodes. En plus, les récifs, donc il n'y a pas beaucoup de poissons. Les récifs abritent les poissons. Pour les pêcher, on peut mettre de l'explosif. Et c'est pas quelque chose d'anodin, ça existe vraiment. Et on fait sauter le récif. Donc les poissons, ils meurent et ils les attrapent. Ça, c'est facile, après ils flottent. C'est évidemment destructeur puisque le récif met des années pour se construire. Et en fait, les gens sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis parce qu'ils détruisent la source de nourriture des poissons. Et donc à terme, ils condamnent complètement leur activité de pêche. Mais ça existe. Et quelque chose que vous ne pensez pas, mais qui est, j'allais dire, à la mode, mais malheureusement à la mode. On est à l'heure de la mondialisation. On veut faire construire quelque chose, on va aller en Chine le faire construire, on va prendre un bateau qui va faire le tour du monde, il va l'amener en Europe. On va faire ça avec des vélos, on va faire ça même avec des plantes maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Cette circulation incroyable, elle permet aussi aux organismes de se déplacer. C'est pas nouveau, mais ça s'intensifie. J'ai pris deux exemples, des exemples assez anciens. Le crabe vert, c'est le crabe que vous trouvez chez vous, si vous allez au bord de la mer. Eh bien, un des crabes les plus fréquents. Son aire de distribution, c'est-à-dire la zone qu'il occupait naturellement, c'est la zone bleue. Vous voyez, on est bien dedans, pas de souci. Eh bien, c'est une des espèces les plus invasives. Parce que souvent, on vous prend des espèces qui viennent des États-Unis, oh là là, elle est invasive. Mais les nôtres aussi, elles peuvent être invasives chez les Américains. Elles peuvent être invasives partout dans le monde. Vous avez les exemples. En rouge, c'est des invasions qui sont vraiment problématiques. Et en vert, ça va. Et les points noirs, c'est là où il y a eu invasion, mais les populations ne se sont pas maintenues. Quel est le problème des espèces invasives? Le problème des espèces invasives, en milieu marin, c'est assez facile de coloniser les environnements si on a des bateaux, par exemple, si les bêtes peuvent prendre les bateaux. C'est beaucoup plus facile que vous pensez, de prendre un bateau, puisque souvent il y a des ballasts et les bêtes rentrent dans l'eau qui sont dans les bateaux. Eh bien, le problème, c'est que cette espèce n'était pas présente au départ, donc elle va manger la nourriture qu'un autre organisme mangeait. Je dirais même qu'elle va manger des organismes qui n'avaient pas l'habitude d'être mangés. Ça, c'est probablement un des facteurs les plus négligés dans la population humaine, mais c'est un des facteurs qui sera les plus violents à long terme sur la chute de la biodiversité. Le fait qu'on mondialise toutes les espèces comme ça aura une incidence énorme, probablement dans les années à venir. L'autre exemple, c'est le moineau. Vous avez tous vu un moineau. Eh bien, introduit au Brésil parce que l'empereur du Brésil, qui était l'empereur du Portugal, était loin de la cour d'Europe. Il avait été chassé à cause de nous, les Français, et il s'est dit quand même, j'aimerais bien retrouver un peu du Portugal, donc il a emmené des moineaux. Puis ces moineaux, ils se sont sauvés. Et bien ces moineaux, ils ont conquis l'Amérique du Sud. Et ça veut dire que quand vous allez au Brésil, il y a des endroits, il y a plein de moineaux. Alors vous me direz, bon ben c'est marrant les moineaux. Ben oui, mais il y avait des espèces locales qui ont pratiquement disparu à cause des moineaux, parce que les moineaux mangent tout. Je ne sais pas l'heure qu'il est, mais je pense que je dois être dans les temps, non? Donc, je peux finir là?
Oui, oui, oui.
Alors, parce que j'ai complètement oublié de regarder l'heure. Alors, un point qui est important et sur lequel je veux finir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la notion de point chaud. La biodiversité, elle est présente partout. Il y a une biodiversité à Arras, il y en a une à Paris, même à Paris. Bon, c'est plus facile à Arras de l'imaginer, mais même à Paris, il y a des petites blattes, il y a des petites souris, et des petits oiseaux, il y a même des faucons dans le centre de Paris. Plein d'organismes qui peuvent se développer dans toutes sortes d'environnements. Mais il y a des environnements qu'il faut préservés davantage que d'autres. Et les raisons sont lesquelles? C'est que pour la notion de biodiversité, selon les indices, selon les évaluations de biodiversité, il y a des endroits qui sont plus riches que d'autres. Et en plus, ce qui tient compte de cette carte du monde, c'est qu'en plus, il y a une pression humaine qui peut être plus ou moins importante en fonction de l'endroit où vous êtes dans le monde. Et si, par exemple, je prends cette carte. Cette carte est basée sur les espèces de plantes et de vertébrés. Eh bien, elle ne serait pas du tout la même si j'avais pris les insectes. Insectes qui sont, je vous rappelle, la plus forte biodiversité spécifique de la planète. Si j'avais pris les insectes, j'aurais eu l'Amazonie en rouge. Mais non, j'ai pas l'Amazonie en rouge, là. Parce que c'est plus les vertébrés et les plantes. Mais c'est des environnements qui sont extrêmement fragiles et menacés. Alors, j'en cite quelques-uns. Les Antilles, par exemple. Alors, milieu insulaire. Dans les îles, il y a souvent une biodiversité propre. Lorsque l'homme est arrivé, la première chose qu'il a fait, mais c'est, je dirais même, c'était traditionnel, les Portugais, quand ils allaient quelque part, ils amenaient des cochons, des machins, et hop, ils les mettaient dans les îles. Comme ça, ils se disaient, et c'était pas bête, dans 30 ans, on reviendra, il y aura de quoi manger. Ouais, mais en emmenant des espèces comme ça, des cochons, parfois les rats, mais les rats, c'était pas volontaire. Ils mangent. Il perturbe les écosystèmes insulaires qui sont des tout petits écosystèmes très spécifiques. Et en général, ça induit des extinctions en masse. Et s'il y a des extinctions en masse actuellement irréfutables, c'est dans les milieux insulaires. Les Antilles sont un écosystème tropical très riche et très menacé par la pression humaine qui est très forte, avec des densités très importantes. Les départements français sont extrêmement denses en population, très menacés au niveau de la biodiversité. Il n'y a pas le nord, je suis désolé, mais par contre, dans le sud de la France, par exemple, l'environnement méditerranéen, extrêmement peuplé de longue date, foyer de civilisation, je dirais, très perturbé depuis des milliers d'années, eh bien, ces environnements, avec les espèces qui le constituent, sont extrêmement menacés et présentent une spécificité qu'il faudrait préserver. Alors, en gros, cette carte a été établie de façon à ce que les gouvernants, qui sont dans les pays respectifs, tiennent en compte encore plus la biodiversité locale de façon à répondre au risque de chute de biodiversité qu'on observe déjà dans à peu près tous les points rouges. Je voulais vous faire cette espèce de panorama sur la biodiversité. J'espère qu'il a répondu à peu près à vos attentes. Et maintenant, j'aimerais qu'un échange s'établissent entre vous et moi. Alors, vous avez certainement des questions. Si vous n'en avez pas, vous savez, je vais descendre de cette estrade. Alors, je ne sais pas si le micro va fonctionner ou...
On va lancer le débat. Donc,
au niveau du temps, ça va? C'est Nine, au niveau du temps, ça va?
Oui, nickel. Jean-Nicolas Smith.
Donc, vous allez poser vos questions. Et on va essayer de les amplifier peut-être un peu pour que tout le monde les entende. Alors, qui se lance pour une première question?
J'ai jamais mangé personne, hein.
Ah ben. Est-ce que j'ai le droit de poser une question,
oui,
moi?
Oui, bien sûr.
Donc, en fait, tout à l'heure, vous parliez des abeilles. Alors, on dit toujours que l'humanité sera menacée si les abeilles viennent à disparaître complètement. Bon, c'est un problème qui a l'air de poser beaucoup de soucis à bien des gens. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Est-ce qu'il y a un vrai danger? Quel danger?
Alors, il est évident que les abeilles, vous les voyez comme des productrices de miel. Mais peut-être que vous savez ou vous ne savez pas qu'il y a des pays où il y a une plus grande facilité pour les abeilles de produire du miel. Je vais citer des exemples. En Grande-Bretagne ou dans le nord de la France, les abeilles ne sont pas très productives. Pourquoi ? Parce que les conditions locales ne sont pas très favorables, alors que par exemple dans le sud de la France, où il y a beaucoup de fleurs, il y a une production qui est beaucoup plus importante. Mais, malgré tout, on continue quand même à faire des abeilles, même dans les zones qui semblent être les moins propices. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les abeilles et les insectes apparentés qui pollinisent les fleurs. Autrement dit, si vous avez des fruits, pour beaucoup d'espèces, de plantes cultivées, mais de plantes sauvages, eh bien c'est parce qu'il y a des insectes qui sont venus butiner sur ces fleurs et qui ont transmis le pollen d'une fleur à une autre. Et c'est grâce à cette opération que va générer les fruits. Eh bien, tout aussi bête que ça puisse paraître, les abeilles font un travail que vous ne pourriez pas faire. Parce que si vous alliez polliniser avec un pinceau toutes les plantes qui sont dans un champ, mais je pense que toute la France serait embauchée à faire ça. D'accord ? Et ça n'aurait aucun sens. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut absolument conserver les butineurs, parce que sinon on n'aura pas de fruits. C'est une aberration ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a plus d'abeilles à Paris que les abeilles survivent mieux à Paris intramuros, qui est quand même la ville, une ville polluée, une grande ville, que dans les champs à côté d'ici. C'est pas normal. Donc on sait pourquoi. On sait pas exactement les mécanismes, mais on sait que c'est l'activité humaine qui fait qu'il y a une mortalité très forte chez les butineurs. Mais quelque part, on est en train de se tuer nous-mêmes, parce que sans butineurs, pas de fruits, pas de nourriture. Donc c'est un problème qui n'est pas anodin. Il faut absolument qu'on ait suffisamment de butineurs et que pour continuer à brasser le pollen, sans quoi il y aura pas de pommes, il y aura pas, enfin quoi que les pommes n'en ont pas besoin. Parce qu'il y a des pollinisations par le vent. Mais enfin, si on n'a que la pollinisation par le vent, on va perdre quand même une partie de notre assiette. Hein. Donc c'est important, et c'est vrai que les abeilles ont une mortalité très forte en France et ailleurs, parce qu'on a utilisé des insecticides qui étaient très puissants, qui sont rémanents, et qui continuent à tuer les abeilles. En fait, il est plus sain pratiquement de vivre en pleine ville parfois que d'être dans l'embosse.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors?
Le fait, la biodiversité, quand le mot biodiversité a été créé, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans les régions qui étaient les plus riches, donc les régions tropicales pour les milieux continentaux, enfin de façon générale, hein, la forêt tropicale c'est le milieu le plus riche en nombre d'espèces et en interactions par rapport à une forêt tempérée. Les récifs c'est ce qu'il y a de plus riche, même si la quantité d'animaux n'est pas forcément la plus importante. Eh bien, ce qu'il faut, on a créé ce terme de biodiversité, c'est qu'on se rendait compte que dans ces régions-là, il y avait destruction en masse et qu'on voyait des espèces disparaître, ou en tout cas, on pouvait penser qu'elles disparaissent. Ce qu'il faut faire, c'est, je dirais, moi je suis scientifique, hein, je ne suis pas politique, donc c'est aux politiciens, en fait, d'instaurer un mouvement de développement durable. C'est un développement durable, ça veut dire... C'est gérer la biodiversité pour qu'elle ne continue pas à chuter, puisque de toute façon, en tant que source la biodiversité va finir par nous coûter si on continue à la détruire. Par exemple, l'état des sols dans les champs, c'est un problème qui nous coûte. En voulant produire en masse sans forcément préserver les écosystèmes, on finit par surdoser les traitements. Et ça finit par nous coûter. Ça nous coûte aussi pour notre santé. Hein. Donc la chose qu'il faut instituer, c'est comprendre la biodiversité. C'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est pour qu'on en discute et puis la préserver. Et après, les politiciens sont censés, puisqu'ils sont censés gérer nos vies, hein, ils sont censés le faire, si possible, dans un développement durable. Parce que dans 200 ans, s'il ne reste plus rien... Cette biodiversité perdue, on ne pourra pas la reconstituer. Hein.
Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des hauts et des bas, donc sur une longue durée. Donc est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans une période de bas?
Oui, on est dans une... Oui.
Est-ce qu'on peut espérer que dans quelques millions d'années, tout va repartir? Vraiment, on va vers une extinction complète.
Le problème, c'est que moi, je vivrai peut-être 80 ans. Et que j'espère un peu plus, mais bon, à la limite 80 ans ça m'irait, et que la biodiversité, pour qu'elle réapparaisse comme elle était, il faut des dizaines de millions d'années. Donc ouais, bon, je me dis peut-être qu'en mourant je me dirais bon, on verra bien, On verra bien finalement ce qui va se passer, mais moi je sais ce qui va se passer parce que je suis scientifique. Le temps est le temps, et qu'on ne peut pas créer de biodiversité en milliers d'années, et que dans 200, 300, 400 ans, la biodiversité qui aura chuté, elle n'aura pas le temps de se reformer, et que de toute façon la biodiversité est perdue. Donc en gros, oui, moi quand je mourrai, je me dis, bon, je suis à peu près sûr, moi je verrai encore des montagnes et des machins, mais vous, vos enfants, vos petits-enfants, n'en suis pas certain. Non, mais c'est vrai, il faut comprendre ça comme ça, c'est l'enjeu de l'humanité, l'enjeu de la biodiversité, c'est nous ne sommes pas sur un satellite, nous sommes sur la Terre, nous mangeons, nous respirons, nous habitons sur la Terre. Vous avez juste oublié que vous êtes dans une ville, mais vous êtes sur cette Terre, vous êtes un simple maillon. Le jour où tous les autres maillons sont détruits, ben je peux vous dire que l'humanité mourra avec. C'est inévitable. Le jour où, si l'homme ne prend pas conscience qu'il faut maintenir une biodiversité autour d'elle, et pour plein de raisons que j'ai évoquées, ben, l'homme mourra avec. J'en suis à peu près persuadé. Ça sera une crise sans précédent. Donc, la diversité, c'est ça le problème aussi. C'est que les scientifiques se sont rendus compte qu'au cours de l'évolution, quelque chose qui est apparu va avoir un succès énorme. Les ailes d'insectes. À un moment donné, il a bien fallu que ça apparaisse. Bon, imaginez les premiers qui avaient des rudiments ou des choses qui leur ont permis de construire les ailes. Si vous les tuez maintenant, là, l'équivalent de ceux qui feront le futur, ça ne se développera pas. Hein. Donc la biodiversité, à mon avis, c'est quelque chose qui se gère. Mais vous n'avez pas des... Je vais descendre, hein, je suis désolé. Mais... Vous n'avez pas des questions? Non. T'as pas de questions, toi? Oui, vas-y.
Comment on peut faire
Le problème, c'est... Oui, je vais la reformuler. C'est une question intéressante. Ce qu'il dit, c'est... Bon, ok, il y a une chute de la diversité. Comment on peut faire pour revenir dans une période haute? La réponse est simple. Ce n'est pas possible. C'est définitif. Si je te tue, t'es mort. Tu vas pas revenir. C'est pareil. Je fais disparaître une espèce de plante, je la détruis, elle ne reviendra jamais.
Alors, les questions par ici, tu peux me laisser passer, s'il te plaît. Alors, je propose que tu te lèves et que tu parles bien dans le micro, surtout très précis.
Mais alors, s'il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait
La solution. Non, mais. Il y a une solution. En fait, il y a un problème.
Tu veux que je...
Moi, je veux bien venir. C'est pas moi qui vais avoir un problème. Il n'a pas le droit de finir. Alors, en fait, c'est surtout qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? On a détruit des espèces. On le sait. J'aurais pu montrer des exemples. Le dodo à l'île Maurice, tout ça. On les a tués. On les a mangés. Hein. En plus, c'était pas bon. Hein. Mais ils ont mangé parce qu'il y avait que ça à manger. Bon, bref, elle a disparu. Cette espèce, elle a disparu à jamais. Ça, on peut rien faire. Mais c'est un peu comme si tu disais, j'ai plus d'argent pour m'acheter des pains au chocolat, je vais en prendre chez le voisin. Ok, c'est bien, mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter d'en prendre chez le voisin. Il faut peut-être avoir un comportement plus raisonnable. Et ce que je dis, c'est que ce qui est perdu, mais ce qui n'est pas perdu n'est pas encore perdu. Et donc, je pense, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que l'humanité comprendra qu'il ne faut pas continuer à détruire et qu'il faut préserver ce qui reste. Mais vous inquiétez pas, il en reste encore plein. Hein. Mais ça va vite. Hein.
J'en fais-tu la différence de moi?
Alors, les chercheurs, c'est avant tout des gens curieux. Donc, ils mettent leur nez un peu partout. Des fois, c'est pas toujours...